Chapitre 30. Ce non n'était pas un bon livre. Des éléments dans le récit ne collaient pas. Julie avait rapidement senti que Traskman s'était piégé tout seul dans une intrigue trop alambiquée. Si la première moitié tenait à peu près la route, la seconde, elle, se dégradait de ligne en ligne. Beaucoup trop de morts, de violences gratuites, de concours de circonstances, jusqu'à un final invraisemblable qui instillait un sentiment d'amère déception au moment de fermer le bouquin.
« Je ne suis pas responsable de ça !»
s'était-elle écriée au terme de sa lecture.
« J'avais le droit de pas partir avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que tu veux ?»
Il ne lui parlait jamais, sauf pour lui ordonner de ne pas bouger lorsqu'il pénétrait dans son espace. Les brèves apparitions qu'il faisait se résumait à accrocher ou récupérer ses fichus labyrinthes, armés de son pistolet hypodermique qu'il pointait en permanence sur elle. Il prenait désormais beaucoup de précautions, à la limite de la paranoïa. Une fois, Julie avait osé contredire ses ordres en quittant son lit. Elle avait fait deux pas dans sa direction, avait levé les mains.
« Vas-y, tire ! Tire sur une pauvre fille sans défense !»
Et il avait pressé la détente, froidement, le visage parfaitement inexpressif. Julie avait vu la flèche s'enfoncer dans sa poitrine. À son réveil, elle avait constaté avec horreur qu'il lui avait rasé les cheveux, ses beaux cheveux blonds. Il lui avait volé tout ce qui lui restait de sa vie d'avant. Ses victoires sur les casse-têtes toujours plus complexes que son bourreau apportait améliorait ses conditions de détention. Ses échecs, au contraire, entraînait une régression. Parfois, elle ne trouvait pas la sortie ou se trompait dans ses tracés. Dans ces cas-là, Traskman reprenait des objets de confort comme le savon, le shampoing ou les couvertures. Le seul moyen pour Julie d'y avoir de nouveaux droits était de remporter les défis qu'il lui imposait avec une régularité de métronome. Il ne voulait pas de demi-prisonnière. Il la poussait dans ses retranchements et elle acceptait le combat. La rage la maintenait vivante. Malgré son extrême prudence, peut-être que Traskman finirait par commettre une erreur. Qu'il se prendrait les pieds dans le tableau et lâcherait son pistolet. Ou qu'il oublierait de déclencher la fermeture de la porte avec sa saleté de télécommande. À cet instant, elle serait là, prête à jaillir hors de cet enfer. En attendant, elle gagna, entre autres, une balayette et une pelle, puis, plus tard, une serpillière, une éponge et un produit ménager. Ses plus belles récompenses jusqu'à présent. Tous les matins, elle époustait à genoux les moindres recoins de sa prison. Avant le repas du soir, elle nettoyait avec le détergent pour que le linoléum brille toujours et sente le propre. Elle passait beaucoup de temps à éliminer toutes les gouttes d'eau à l'intérieur du lavabo. Tout devait être impeccable. C'était devenu obsessionnel. Son araignée, elle, pendait toujours sous le lit, bien vivante, et Julie veillait à ne pas la déranger. Quant à la photo de Noémie, la malheureuse écorchée, elle ne voulait plus la voir mais refusait de la jeter, considérant que ça pourrait servir à la police, un jour. Elle l'avait donc rangée entre le matelas et le sommier, avec les articles de disparition. Parfois, la nuit, elle imaginait les parents de Noémie. Eux aussi devaient la chercher. Eux aussi gardaient sûrement l'espoir de la retrouver. Quand elle sortirait d'ici, elle s'arrangerait pour qu'ils apprennent la vérité, si terrible soit-elle. Ils avaient le droit de savoir, de faire leur deuil. Lorsqu'elle songeait au moment où elle renouerait avec la liberté, elle se demandait systématiquement à quoi elle ressemblait. De ce qu'elle voyait, elle avait la sensation d'avoir beaucoup maigri. Depuis sa détention, elle n'avait d'ailleurs jamais eu ses menstruations. Tout son système hormonal partait en vrille. Ses ongles cassaient comme du cristal. Si on ajoutait à ça ses cheveux qui repoussaient à peine, elle devait être méconnaissable. Souvent, elle réclamait un miroir. Elle avait besoin de se voir, ne serait-ce qu'une fois, pour se prouver qu'elle existait encore, pour ne pas se perdre définitivement. Et puis son reflet pourrait lui tenir compagnie. Elles discuteraient toutes les deux. Mais ses requêtes glissaient sur Traskman comme l'eau sur un rocher. Un soir, Un bouquin arriva sur le plateau sans qu'elle ait à résoudre de problème. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Sur le coup, elle fut envahie par un sentiment de gratitude infinie envers son tortionnaire. Malgré les horreurs, les sévices psychologiques dont il était coupable, cet homme ne pouvait pas être que mauvais. Il avait été un gamin lui aussi, un être innocent, un mari, un père. Julie se souvenait qu'il lui expliquait, dans le chalet du lac Noir, que la plupart des comportements criminels trouvaient leur origine dans l'enfance. Inceste, maltraitance, humiliation. Peut-être avait-il eu une jeunesse abominable. Peut-être qu'au fond, il n'était pas complètement responsable et que tout ça, c'était la faute de ses parents. Quoi qu'il en soit, les livres adoucirent incommensurablement son quotidien. Qu'ils fussent romans d'amour, d'aventure ou historiques, ouvrages sur l'art, la peinture, la sculpture, ou documentation sur les échecs, ils la transportaient. Elle s'était plongée dans 10 Petits Nègres, et l'avait lu à plusieurs reprises tellement elle aimait l'histoire et les personnages qu'elle connaissait désormais par cœur. D'autres fois, elle était Ulysse, le capitaine Nemo, Gros-Blanc. Elle volait de pays en pays et traversait les époques. Elle s'éduquait, profitait de chaque heure pour apprendre. Elle travailla ainsi mentalement ses ouvertures échiquéennes, puis affronta d'illustres adversaires, Kasparov, Fischer, Spassky, en rejoignant des parties commentées. Julie admira également les chefs-d'œuvre de peintres comme le Caravage ou Goya, découvrit à travers leurs créations parfois insupportables qu'eux aussi étaient des êtres tourmentés. Saturne, le tableau de Goya avec ce géant aux yeux exorbités en train de déchiqueter un homme, qui n'est autre que son propre fils, et de le dévorer, la marqua particulièrement. Surtout quand elle lut que l'artiste avait peint cette monstruosité sur le mur de sa salle à manger. Pourquoi ? Pourquoi l'art était-il autant capable de sauver les hommes que de les précipiter vers l'abîme ? Certains passaient de la dépression au génie en 2 coups de pinceau, d'autres se guérissaient en créant, avant de ressombrer plus profondément encore. Caleb cherchait-il, à travers ses livres qu'il lui déposait, une forme d'excuse à ses propres obsessions? Les bouquins arrivaient systématiquement le soir, juste avant que la lumière ne s'éteigne, car bien sûr, il fallait toujours un soupçon de perversité. Elle avait donc pris l'habitude de piétiner devant la trappe comme un gosse aux portes d'un magasin de jouets. Et, quand le plateau ne contenait que son repas, elle protestait. Pour le principe. Ça ne changeait évidemment rien. Traskman décidait du moment. Une fois même, il entra, noir de colère, et embarqua tout ce qu'il lui avait donné sans qu'elle en comprenne la raison. Après quoi il renvoya les livres au compte-goutte par l'ouverture, tel un maître offrant des friandises à son animal de compagnie. Elle avait aussi eu droit à des romans policiers de plus de 500 pages, auquel il avait arraché le dernier chapitre. Sadisme, maladie, elle ne parvenait pas à trancher, mais le résultat était le même. L'emprise qu'il exerçait sur elle la détruisait à petit feu, si bien qu'un matin, elle n'eut plus la force de se lever. Pourquoi faire? Pourquoi marcher, manger, respirer? Pourquoi lui offrir le plaisir de la voir souffrir? Elle ne ressentait plus rien. Ni peur, ni tristesse. Il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait, la laisser crever, reprendre tous les livres, elle s'en fichait. S'il y avait de la nourriture, elle l'avalait. Quand il l'en privait, elle restait inerte, couchée sur le flanc, somnolant la plupart du temps. Elle avait connu l'enfer de la faim, mais s'il fallait repasser par là pour que tout cela cesse, elle était prête. Puis un jour, des pilules vertes apparurent à côté du verre d'eau. L'état de flottement que ces médicaments provoquèrent se révéla si agréable que Julie en devint instantanément dépendante. Elle les appela ses petits pois magiques. À chaque livraison, elle se jetait dessus. Au bout d'une semaine, s'il l'avait fallu, elle aurait rampé dans un tunnel rempli de merde pour récupérer sa précieuse dose. Sous l'influence de cette drogue dont elle ignorait tout, elle ne voyait plus la succession des heures, cessait de réfléchir, n'éprouvait même plus le besoin de lire. Elle était de toute façon incapable de se concentrer. Juste le temps de faire quelques pas, de nettoyer le sol déjà propre, comment aurait-elle pu le salir, de jouer avec son araignée, et la journée s'achevait. La nuit, elle dormait d'un trait. Un long et profond sommeil, vierge de tout cauchemar. Peut-être que Traskman en profitait pour s'approcher d'elle, mais peu importait, puisqu'elle n'en avait pas conscience. Quand un matin elle se rendit compte que ses petits pois magiques n'étaient pas là, elle se dit que ça ne pouvait être qu'un banal oubli. Tout rentrerait dans l'ordre au prochain plateau. Puis le doute s'immissa dans son cerveau. Nerveuse, elle se mit à faire des allers-retours entre son lit et le couloir, se rongeant les ongles jusqu'au sang. « Fais pas ça, salopard, surtout fais pas ça !» se murmurait-elle.
« Je vais te tuer !»
hurla-t-elle pleine de rage. Lorsqu'elle ne reçut pas les pilules le midi, ni le soir. Là, elle balança son plateau contre la porte, aussi fort qu'elle le put. Avant que la lumière ne s'éteigne, elle réduisit le tableau en miettes, se précipita sur les cotons-tiges et les enfonça par poignées dans les trous, sans réussir à faire bouger d'un millimètre les cylindres en mousse.
« Viens, ordure! Amène-toi !»
Elle était prête à lui sauter dessus, à lui arracher les yeux. Quand l'obscurité tomba, elle déchira tous les articles de journaux qui étaient à sa portée. Ses gestes étaient fous, désordonnés. Elle aurait voulu étriper Caleb, le déchiqueter en morceaux lui aussi. Épuisée, elle se laissa finalement tomber sur son lit, les paumes plaquées contre ses oreilles. Elle tremblait de froid, une coulée de glace se déversait dans ses veines, et l'instant d'après, le feu se déchaînait dans son ventre. Elle passa une partie de la nuit à se tordre, à se traîner, à vomir ses tripes dans la cuvette des toilettes, agitée de spasmes. Au plafond, la VMC vrombissait. Le manque était terrible. Le jour suivant, elle resta assise contre un mur, ou à quatre pattes, ou couchée au sol, suppliant le sommeil de venir l'accueillir, les doigts agrippés à la mousse.
C'est la pire journée. Celle de demain sera encore éprouvante. Ensuite, ça ira mieux.
Des chaussures noires en cuir étaient apparues dans son champ de vision. Julie tenta de s'accrocher aux chevilles, mais elle n'était déjà plus là. Elle fixa sa main ouverte qui lui paraissait détachée de son corps, flottante. Puis elle s'enroula dans les couvertures. Ses mâchoires claquaient. Son front était trempé de sueur. Quelque chose se balançait au-dessus d'elle. Une silhouette qui semblait suspendue à un palan, ses membres écartelés, ses chairs à vif. Noémie. Alors qu'il pleuvait des feuilles de roman, celle-ci colla son visage décharné contre le sien. Une voix blanche, jaillie d'outre-tombe, s'invita dans sa tête et répéta en boucle
« Sors-moi de là !»
Dans son délire, Julie sentit les odeurs de putréfaction. Elle hurla et se terra sous le lit. Là, derrière les lattes du sommier, Noémie l'observait encore. Elle s'empara alors de la photo et la dépiauta avec ses dents avant de sombrer, enfin. Elle n'avait su dire combien de temps s'était écoulé, combien de matins avant que la marée ne se retire. Au fil des jours, elle finit par retrouver l'appétit, nettoya la pièce qu'elle avait ravagée. Caleb avait dû ramasser ce qui subsistait du tableau puisqu'il n'était plus là. Elle fourra les articles déchirés dans la petite poubelle près du lavabo, se glissa sous le lit et constata avec effroi qu'Anne Onim n'était plus qu'une dérisoire tache par terre. Elle était seule désormais. C'était absurde d'avoir de la peine pour une misérable araignée, mais cette bestiole avait été sa compagne de galère et elle s'en voulait de l'avoir écrasée pendant son accès de folie. Quelque part, elle ne valait pas mieux que Traskman. Elle avait décidé du sort d'une autre vie. Pour oublier, elle se réfugia de nouveau dans les livres. Jusqu'à ce que, sans qu'elle l'entende, Caleb lui rende une visite nocturne, et qu'elle trouve à son réveil, un jour, au milieu de sa prison, un talkie-walkie ainsi qu'un jeu d'échecs sur une table en plastique orange. Les 32 pièces, blanches et noires, se tenaient face à face, prêtes pour un combat sans merci. Elle frôla du bout des doigts les sculptures en bois. Elles étaient belles, précieuses. Elle ferma les yeux et renifla l'odeur du vernis. Le Tokiwoki, lui, ressemblait à un solide appareil de l'armée, avec son coffrage en métal gris et son antenne. D'un usage enfantin, il disposait d'un seul bouton que l'on pouvait soit enfoncer au coup par coup, soit bloquer pour des conversations plus longues. Lorsqu'elle le souleva, Julie découvrit une carte en dessous. Elle éprouva une vive appréhension au moment de la retourner. L'écriture était appliquée. Le message, on ne pouvait plus simple. Joyeux Noël.